Avec un temps qui se réchauffe petit à petit, l'été arrive doucement à Paris, bien mieux qu'un bain de soleil en terrasse. Vous avez bien fait de choisir la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
En France, à partir de demain, l'éditeur Halo bloque l'accès aux sites YouPorn, RedTube et Pornhub face à la mise en place d'un contrôle de l'âge des utilisateurs. Pour les frustrés par cette nouvelle, ce sera l'occasion pour vous de visiter des sites plus éthiques et surtout plus respectueux des femmes. Malgré les quelques bourrasques à Roland-Garros, Iga Świątek revient en force avec un très beau match qui évinça l'Ukrainienne Elina Svitolina. Seul bémol, un but public pas encore assez au rendez-vous pour les matchs féminins dans le tennis. À croire que certains n'ont toujours pas compris que les femmes savent aussi bien manier la raquette que certains hommes. Alain Ducasse, Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, Yannick Aleno, nos chefs cuisiniers français régnent à l'international. Pourtant, tout n'est pas rose dans les cuisines. C'est ce que montre Nora Boisouni dans son livre « Violence en cuisine, une omerta à la française ». Des salariés surexploités au niveau des heures, des chefs qui sont les seuls à être syndiqués, un sexisme et une homophobie ambiante dans les rangs, la cuisine française a du travail pour redorer son image. Dans une France au climat de plus en plus tendu, l'antisémitisme et l'islamophobie grandissent. Malgré la situation en Palestine, de nombreux Français de confession juive sont partis pour Israël. Aujourd'hui, un individu a incendié un Coran, la France comme terre d'accueil devient de l'ordre de la nostalgie. Si vous voulez un blabla de puce de notre cher ami Emmanuel Macron, rendez-vous le 10 juin sur France 2 pour parler protection de l'océan dans le cadre de la conférence de l'ONU à Nice qui se tiendra du 9 juin au 13 juin. Il rappellera son engagement pour la biodiversité marine. J'ai dit engagement ? Ah oui ! Certainement, notre président va parler du petit 0,1% des eaux métropolitaines qui sont réellement protégées et de ses efforts pour repenser les méthodes de pêche. Ah oui, c'est bien ce que je me disais. Sacré engagement. À l'international, selon les estimations, le candidat de centre-gauche Lee Jae-myung sera le futur président sud-coréen. Après la tentative ratée de la loi martiale, la population espère un retour rapide au calme. À Gaza, les massacres se répètent après le drame du dimanche où 31 personnes ont été tuées et 176 ont été blessées. Le bilan d'aujourd'hui est de 27 morts causés par des tirs israéliens près d'un centre d'humanitaire. L'ONU invoque un crime de guerre. Vassil Malniuk, ça ne vous dit rien. C'est pareil pour les Ukrainiens. Il y a quelques jours, Vassili Malniuk est l'architecte derrière l'opération Toile d'araignée qui a détruit plusieurs bases aériennes en Sibérie. Il est sacré héros de l'Ukraine. Mais derrière cette médaille, la guerre continue malgré les pourparlers pour une trêve débutée hier en Turquie. La Russie a quant à elle récemment lancé sa plus vaste attaque de drones depuis le début de la guerre. Au programme ce soir dans la matinale, Éléonore recevra Lucie Larère, responsable de l'antenne Île-de-France de l'association Règles élémentaires, pour nous parler de précarité menstruelle à l'occasion de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle qui a eu lieu le 28 mai dernier. Nous aurons le plaisir d'avoir Léo pour nous donner des nouvelles de l'actualité, Francesca à la chronique. Ensuite, l'artiste Joy parlera avec Héloïse de sa mixtape Angel, sortie le 22 mai. Enfin, Fabien nous parlera de la programmation de Nuit Blanche qui se tiendra ce samedi 7 juin.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Il a fallu attendre 2018 pour voir pour la première fois une publicité avec du sang rouge au lieu du liquide bleu. Une femme dépense en moyenne dans sa vie 3 950 € pour ses règles, frais gynécologiques et de literie lingerie compris, et selon une estimation réalisée par Le Monde en 2019. Pour en finir avec le tabou et la précarité menstruelle, en 2015, Règles élémentaires fut la première association française créée par Tara Euzé-Sarmini pour répondre à ce défi. Pour nous parler de ce combat, nous avons Avec nous ce soir, Lucie Larrère, responsable de l'antenne Île-de-France de l'association Règles élémentaires, et Léonore, notre intervieweuse de ce soir. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir.
Bonsoir Lucie. Bonsoir à ceux qui nous écoutent. Je ne vous présente plus, du coup. Vous êtes ici, entre autres, pour parler du 28 mai, mais plus largement de la question de la précarité menstruelle. Avant de commencer, est-ce qu'on pourrait définir ces termes et expliquer ce dont on parle, aujourd'hui en 2025, on a déjà instauré des congés menstruels en entreprise. On a eu des prises de parole politiques sur l'endométriose. Qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de précarité menstruelle et de quoi et à qui parle-t-on quand on utilise ces termes presque barbares ?
Alors effectivement, c'est important de définir déjà ce qu'est la précarité menstruelle, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément entendu ce terme. Donc précarité, forcément, on va être sur le fait de ne pas avoir assez de moyens, notamment financiers. Et menstruelle, ça va être lié aux règles. Donc en fait, la définition communément admise de la précarité menstruelle, c'est le fait de ne pas avoir assez d'argent pour s'acheter assez de produits périodiques, donc serviettes, tampons, pour pouvoir vivre ses règles dignement. Donc ça peut être soit ne pas pouvoir s'en acheter du tout et devoir faire avec d'autres produits de substitution, du type papier journal, papier toilette, et j'en passe. Ça va être pouvoir s'en acheter un petit peu, mais pas assez, et donc devoir utiliser des protections beaucoup plus longtemps que recommandé, ce qui peut avoir des conséquences physiques. Et ça peut être s'en acheter suffisamment, mais devoir en échange renoncer à un autre produit de première nécessité. Donc c'est typiquement choisir entre un paquet de pâtes et un paquet de serviettes, par exemple. Ça aussi, c'est de la précarité, parce que dans tous les cas, on ne peut pas vivre correctement sans pâtes ou sans serviettes. Donc ça, c'est la définition qui est communément admise. Et ensuite, chez Règles élémentaires, on aime rajouter aussi le manque d'informations sur les règles. Parce que ne pas avoir assez d'informations sur ce que sont les règles, ce qui se passe dans notre corps, ne pas connaître aussi les pathologies qui sont liées aux règles, c'est une forme de précarité, parce qu'on peut ne pas identifier certains symptômes liés aux pathologies et ne pas se faire diagnostiquer. On peut mal utiliser des produits périodiques parce qu'on ne nous a jamais expliqué comment les utiliser. Et tout ça, ça a des conséquences forcément physiques, mais aussi psychologiques et en termes d'insertion socio-professionnelle également.
Vous êtes responsable Île-de-France, et si on élargit à l'Europe, on se rend compte que 42% des femmes menstruées sont en précarité menstruelle. Ça représente quand même 50 millions. Comment on peut encore parler de tabou quand la moitié des Européennes sont en précarité menstruelle, vivent ça tous les mois ? Comment c'est possible de ne pas en parler, si ce n'est par les pouvoirs publics ? Comment c'est possible que ce qui est intime et universel n'arrive pas à exploser ce plafond de verre ?
Ça, c'est un travail de longue haleine. Ça fait des siècles et des siècles que c'est un sujet qui a été invisibilisé. On a beaucoup de clichés, par exemple, autour des règles, des clichés évidemment très négatifs et qui ont souvent été diffusés par des personnes qui n'avaient pas leurs règles, qui ont été diffusés, admis par toute la société, et qui fait qu'aujourd'hui encore, dès le plus jeune âge, on intègre le fait que c'est un sujet dont il ne faut pas parler. C'est un sujet aussi qui est lié notamment au corps, à la sexualité, au corps des femmes particulièrement. Donc c'est des choses qui on comprend que vaut mieux ne pas en parler, se débrouiller de son côté avec ces sujets-là. Et malheureusement, encore aujourd'hui, justement, on voit que pourtant c'est un vrai poids pour une grande partie de la population. Dans les chiffres qu'on a sortis notamment mercredi dernier, donc il y avait ces 42% de personnes qui sont en situation de précarité menstruelle en Europe, mais il y avait aussi 51% des personnes, des Européens et Européennes, qui considèrent que les règles aujourd'hui sont encore un sujet tabou. Donc c'est vraiment une personne sur deux à l'échelle européenne qui considère qu'il ne faut pas parler, on ne peut pas parler de ce sujet. Et en fait, ça va avoir une conséquence encore plus énorme sur les personnes qui sont dans cette situation de précarité menstruelle, parce qu'il va y avoir un isolement qui va se créer. On ne va pas vouloir parler de notre situation, on ne va pas se sentir à l'aise. Et ça provoque aussi beaucoup de conséquences sur le manque d'informations, comme je le disais. Si on n'a pas les outils pour en parler, on n'en parle pas ou on en parle mal.
Vous avez lancé l'opération « Le poids des règles », qui a été menée par l'initiative Menstrual Matters UE, pour justement contribuer à lutter contre ces tabous qui persistent autour des règles et des menstruations. Ça consistait à placer des ficelles de tampons sur les statues féminines. Qui cherche-t-on à interpeller par ce biais ? Est-ce qu'on cherche à choquer et donc à donner une visibilité sur ces sujets ? Ou est-ce qu'on cherche à alerter au niveau des politiques publiques, des entreprises ?
Bah en fait, les deux. La campagne en elle-même, avec les ficelles de tampons sur les statues, c'est évidemment adressé au grand public en premier lieu. L'idée, c'était de faire le parallèle entre les statues qui sont très lourdes, qui ont vraiment un poids si elles sont en marbre, etc. et le poids des règles qui, lui, est complètement invisibilisé. Pourtant, il est réel et il pèse très lourd sur de nombreuses épaules à l'échelle européenne et en France, évidemment. Donc, c'était pour faire ce parallèle-là et de montrer aussi que si le corps des femmes est très visible dans l'espace public, sans problème, par contre, rajouter une ficelle sur une statue, tout de suite, ça interpelle beaucoup et ça permet d'alerter en fait sur justement aussi ce tabou, sur le fait qu'une simple ficelle tout de suite nous déstabilise en fait. Donc ça, c'était vraiment pour le grand public et après, c'est plutôt l'enquête en elle-même qu'on a menée du coup à l'échelle européenne qui permettait notamment d'alerter les pouvoirs publics et la Commission européenne et là-dessus, parce qu'en fait, c'est des chiffres qu'on n'avait pas pour le moment. C'est des chiffres qui n'existaient pas à l'échelle européenne sur ce sujet-là.
On n'a pas encore parlé du rôle de votre association. On sait que vous cherchez à parler de santé publique, d'égalité des genres et de redonner une dignité humaine aux personnes menstruées qu'on invisibilise en invisibilisant leur quotidien de fait et de ne pas les représenter dans leur intégralité, que ce soit des mères isolées, des jeunes filles, peu importe. En quoi consiste votre rôle premier au-delà de la sensibilisation, pardon, sur le terrain en forme concrète ?
Alors, l'association Règles élémentaires, elle a été fondée du coup en 2015, donc il y a presque 10 ans. Et il y a 10 ans, le sujet était encore bien loin de ce qu'il est aujourd'hui, même s'il n'est pas encore tout à fait acquis. Mais en 2015, on était à une époque où, par exemple, il y avait encore la taxe tampon. Donc il y avait une TVA de 20% sur les produits périodiques, donc qui était la TVA qui était donnée aux produits considérés de luxe. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas pour des serviettes ou des tampons. On ne choisit pas d'avoir ces règles. Et donc c'est à ce moment-là, notamment en 2015, qu'il y a eu un premier débat public qui a permis d'abaisser cette TVA au 5% qui est la TVA des produits de première nécessité. Mais ça montre que il y a 10 ans, c'était vraiment un sujet qui était impensé complètement dans la société. Et donc l'association, elle est arrivée là en se disant, en fait, même dans les associations qui accompagnent des personnes en situation de précarité, de manière générale, on ne pense pas à ces produits-là. On donne des cotons, des rasoirs, mais on ne pense pas aux produits périodiques et on n'ose pas en parler avec les personnes qu'on accompagne. Donc on s'est fondé sur cette action historique qui est de collecter des produits périodiques grâce à la mobilisation citoyenne. Donc n'importe qui peut nous aider à collecter des produits périodiques et on les redistribue à des associations. Donc aujourd'hui, on a plus de 1600 partenaires associatifs sur tout le territoire à qui on redistribue des produits et qu'on forme également pour aborder le sujet avec les personnes qui les, elles, accompagnent. Aujourd'hui, les personnes en situation de précarité menstruelle en France, c'est 4 millions de personnes. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas seulement les personnes qui sont en situation de rue, c'est aussi beaucoup d'étudiants et étudiantes. C'est quasiment 2 millions de ces 4 millions qui ont entre 18 et 25 ans. Donc la précarité étudiante et la précarité menstruelle étudiante, elle est très importante. Et il y a aussi les chefs de famille monoparentales, les travailleuses pauvres. Donc voilà, c'est aujourd'hui encore un sujet qui est très important malheureusement. Donc il faut lutter matériellement en distribuant des produits périodiques et en termes informationnels en diffusant de l'information et de la bonne information sur le sujet.
En effet, pour rebondir sur ces chiffres, si 4 femmes sur 10 sont concernées, ont été concernées ces 12 derniers mois, on pourrait préciser que la précarité menstruelle n'est pas une fin en soi et qu'on peut être à un moment en situation de précarité sans l'être de façon pérenne. Pour cela, vous avez proposé de faire des collectes autonomes. Donc sur réglementaire, il est possible de rejoindre une collecte qui a été créée, si je ne me trompe pas, par l'association, mais aussi d'étendre cette sensibilisation et de donner une responsabilité citoyenne à chacun et à chacune qui voudrait lui-même dans sa localité agir. Qu'est-ce que aujourd'hui une personne peut faire qui ne connaît pas le site, qui potentiellement ne peut pas se rendre en métropole et souhaite agir dans sa région pour faire une collecte? Qu'est-ce qu'il peut faire en distanciel depuis chez lui tout de suite?
Oui, c'est vrai que les chiffres qu'on donne depuis le début, ça fait peur. On se rend compte que c'est un enjeu qui peut nous dépasser, hein, qui est vraiment à l'échelle nationale et européenne. Mais en fait, on peut également agir au local, et c'est ce que nous, notamment, on fait chez Règles élémentaires. C'est que n'importe qui peut, à son échelle, aider pour lutter contre la précarité menstruelle, mais aussi contre le tabou. Et c'est là-dessus qu'on s'est basé en tant qu'association, c'est la mobilisation citoyenne. Parce que le fait de collecter des produits pour règles élémentaires, c'est déjà agir concrètement, mais aussi le fait de devoir collecter, donc d'aller en parler à ses proches, à ses amis, dans son entreprise, dans sa fac, c'est aussi déconstruire les clichés et lever le tabou autour du sujet. Donc en fait, avec cette simple action, de donner des produits en nous envoyant des produits ou en organisant sa collecte accompagnée par règles élémentaires, on permet à la fois de lutter concrètement contre le manque matériel et aussi de déconstruire en fait le tabou et de visibiliser le sujet.
Merci Lucie, on va poursuivre cette conversation après la pause musicale. On écoute Young Miko, Kurita.
Se note, gafas oscuras pa' cuando ella venga explote. Ella sabe que estoy esperando la 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 la. A punto de llegar, dijo hola, ¿qué tal? Abre que voy a entrar. Sé que estás de ahí, por eso vine. Cuando llamaste, hoy yo voy a hacer que tú lo olvides. Solo dime si tú. Conmigo pues hacemos un all-nighter. Tú mismo se ghostwriter. Saco lo de mí sin reminder.
Un besito más y me quedo sin aire. Sé que estás de ahí, por eso vine.
Cuando llamaste, hoy yo voy a hacer que tú lo olvides. Solo dime si tú la máquina me sigues. Sea conmigo, yo voy a hacer que tú lo
tu amiga Genesis, tú me dices y de una me pongo pa' el tri, ey, tienes la culpa de que sea tan free, hay que aterrizar, pero está bueno el tri, ey, esa mi nena, esa mi co.
C'était Kurita de Young Miko et on est toujours avec Éléonore et Lucie Larère, responsables de l'antenne Île-de-France de l'association Règles élémentaires, qui nous parlaient de précarité menstruelle.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors effectivement, comme je disais avant, donc en tant que citoyen, citoyenne, on peut donc collecter pour règles élémentaires dans son entreprise, dans sa fac, un peu n'importe où, auprès de ses proches déjà, c'est un bon début. Mais il y a aussi un nouvel outil qu'on a diffusé il y a un peu plus d'un mois maintenant, qui s'appelle Regla, et qui est en fait une application qu'on tout le monde peut télécharger et qui permet de géolocaliser autour de soi les lieux où on peut trouver des produits périodiques gratuits. Donc ça, ça a deux objectifs. Le premier, d'aider les personnes qui ont besoin de produits à l'instant T parce qu'elles n'ont pas, pas capacité à s'en acheter ou tout simplement pour une raison ou une autre n'en ont pas sous la main et doivent s'en procurer. Mais aussi, cette application, elle a notamment possibilité de laisser, enfin de permettre aux personnes de recenser des nouveaux points. Donc ça, l'idée aussi, c'est en fait d'encourager les établissements publics, mais aussi les établissements privés, parce qu'il y a de plus en plus de bars et de restaurants, par exemple, qui mettent à disposition des serviettes dans leurs toilettes. C'est encourager toutes ces structures-là à mettre de plus en plus de points, et les citoyens et citoyennes peuvent recenser ces points, ce qui nous permet d'avoir une carte assez exhaustive de tous les endroits où on peut trouver des produits périodiques gratuits. Et donc ça, c'est aussi une application qui permet aussi d'avoir des petits éléments de sensibilisation. Il y a des modules de sensibilisation sur les règles, les pathologies, l'utilisation des produits qui sont accessibles directement sur l'application si on a besoin.
Donc à vous lire, on comprend que donner c'est bien, mais savoir quoi donner c'est mieux. Et c'est pareil pour le don d'informations. Et pour ça, vous avez prévu, vous aviez prévu de vous étendre et proposer des formations dans plusieurs champs. On retrouve le milieu médico-social, professionnel, pénitentiaire et surtout éducatif. Pourquoi choisir des champs d'action qui paraissent aussi différents? Et quel enseignement vous tirez de ce public formé qui est très divers et très différent?
Effectivement, on commence petit à petit à ouvrir un peu toutes les portes, et parce qu'en fait le sujet des règles, c'est un sujet qui peut être abordé de plein de manières et avec plein de publics différents. On s'en rend compte chaque jour. Alors le public médico-social, c'est le premier vers qui on s'est tourné. En fait, comme je disais, quand on a créé l'association, c'était pour venir en accompagnement des associations qui existaient déjà et qui accompagnaient des personnes en situation de précarité, de précarité de manière générale. Donc l'idée, c'était vraiment de venir en tant qu'expert un peu des règles et d'accompagner ces professionnels du médico-social. Aujourd'hui, on en forme effectivement très régulièrement. Sur l'année 2024, on en a formé presque 400 sur tout le territoire, pour qu'ils soient en capacité d'aborder le sujet avec les personnes qui les accompagnent, de détecter des situations de précarité menstruelle, de donner le bon discours inclusif, vérifié, et de permettre d'accompagner certaines personnes qui pourraient avoir des pathologies, par exemple, de les accompagner aussi dans les parcours de soins. Donc ça, c'est le premier public, en fait, les professionnels du médico-social, le premier public vers qui on s'est tourné. Vous parliez aussi des professionnels du pénitentiaire. Effectivement, c'est aussi un partenariat qu'on a de longue date avec la direction d'administration pénitentiaire. Donc pareil, aussi, on les forme pour avoir les outils pour en parler. Et en fait, au bout de quelques années, en 2020, on s'est rendu compte qu'en fait, les clichés notamment qu'on intègre, on les intègre dès le plus jeune âge. Et qu'en fait, il fallait commencer à sensibiliser les plus jeunes pour essayer de prévenir cette construction de clichés. Donc, on intervient maintenant dès le CM2 dans les établissements scolaires et on forme du coup les équipes éducatives pour que l'établissement scolaire en soi soit un lieu plus inclusif, plus adapté aux personnes qui ont leurs règles et plus bienveillant de manière générale. Parce qu'encore aujourd'hui, les élèves qui ont leurs règles sont assez invisibilisés. On ne pense pas forcément à toutes les petites conséquences qu'il peut y avoir sur une journée de cours et qui peuvent devenir vraiment un poids pour les élèves, que ce soit ne pas pouvoir sortir au milieu d'un cours parce que le professeur ou la professeure ne comprend pas qu'en fait il y a besoin de changer une protection, que ce soit les humiliations, les discriminations qui peuvent y avoir entre élèves et la précarité menstruelle en fait qui peut commencer dès le plus jeune âge.
Parlons jeunesse, parlons règles. Vous avez lancé cette plateforme éducative pour pallier au déficit d'infos sur les règles et vous proposez en trois volets, à trois publics différents, trois actions concrètes. Aux jeunes de 8 à 14 ans, des questions anonymes qui offrent des réponses générées par un chatbot. Au deuxième volet, plus pour les parents, qui peuvent retrouver des articles sur ces thématiques et aussi savoir comment aborder ce sujet avec leurs enfants, avec leurs filles, pour avoir les bons mots et les bons gestes. Et un dernier qui s'occupe de la transmission et permet donc au personnel éducatif en dehors du cadre privé et parental, d'accéder à un contenu pédagogique. Qu'est-ce qui vous permet de penser et de partager l'idée que l'associatif est la meilleure réponse pour sensibiliser quand on a déjà l'éducation privée et l'éducation institutionnelle? Comment on se rend compte que ça marche et que 90% des personnes formées sentent plus qu'un apport, une libération sur ce tabou, finalement?
Alors, l'idée, effectivement, de la plateforme Parlons Règles, c'était tout simplement de dédier un outil accessible à tous et à toutes pour parler des règles et pour transmettre des connaissances scientifiques, vérifiées, inclusives sur le sujet. L'idée, c'était pas tant de venir en tant qu'association, mais juste de proposer un outil et une ressource qui n'existait pas, en tout cas en langue française et en France, sur le sujet. Cette plateforme, on l'a co-construite avec des équipes éducatives, avec des élèves qu'on a sensibilisés et qui nous ont aussi apporté leurs questions, leurs interrogations autour de ce sujet, avec des parents aussi. Donc en fait, l'idée, c'était plus de faire le lien entre tous ces publics qui ont des questions, qui ont des besoins autour des règles et de la santé menstruelle de manière très large et qui n'ont pas la ressource nécessaire et essentiel pour eux qui n'existait pas jusqu'alors. Donc cette plateforme maintenant elle vit un peu sa petite vie, elle est notamment dédiée aux 8-14 ans, mais en fait tout le monde peut récupérer des informations là-dessus. On apprend très facilement beaucoup de choses, on se rend pas compte, mais on a généralement un manque de connaissances sur le sujet, et notamment vous parliez du chat qui existe sur la plateforme qui a été alimenté par nos connaissances et qui répond de la manière la plus vérifiée, bienveillante possible à toutes les questions autour des règles. En fait, ce chat, il est utilisable par tout le monde. Et si on a la moindre question, interrogation autour de ce sujet, on peut tout simplement poser la question et ça nous permettra, via ce chat, d'être redirigé vers les bons interlocuteurs, interlocutrices. Donc l'idée, c'est pas tant de se substituer aux autres à l'éducation nationale ou au cercle privé, mais juste de donner une ressource qui a été co-construite par tout le monde et qui devient un outil pour tous et toutes.
La violence économique, on le sait, fait partie des violences systématiques de premier plan sur les personnes menstruées. C'est aussi une violence qui est invisibilisée et a fortiori, réglementaire souhaite aussi véhiculer le message que entraver le confort menstruel, c'est aussi entraver un égal accès aux soins. Et donc, c'est une question de santé publique qui ne concerne pas seulement le public concerné, les personnes menstruées. Comment on articule santé publique, égalité des sexes et politique publique? Si c'est moins taxé, est-ce qu'on sait quand même ce qu'il y a dedans? C'est des compositions qui sont assez obscures. Comment aujourd'hui, si on veut donner, on peut donner en pleine conscience un produit qui n'est pas nocif et agir au mieux pour essayer d'aider concrètement ce confort menstruel?
Alors effectivement, nous, en collecte, ce qu'on conseille de donner, si les personnes le peuvent, c'est effectivement des produits qui sont sans parfum et qui sont, si possible, avec du coton bio. En fait, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut demander parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur ce qu'il y a effectivement dans les produits périodiques. Et souvent, les produits qui se disent un petit peu plus sains, ils sont aussi plus chers, malheureusement. Donc, c'est pas accessible à tous et à toutes. L'année dernière, il y a un décret qui est passé sur la transparence de la composition des produits périodiques. Ce décret, on a essayé notamment, nous, mais avec d'autres associations, de pousser pour qu'il soit le plus restrictif possible. Bon, aujourd'hui, il n'est pas encore totalement appliqué, mais en fait, quand on regarde un paquet de protection, il n'y a pas la composition dessus pour le moment. Et effectivement, c'est aussi parce qu'en fait, on ne s'est jamais posé la question et en fait, la conséquence que ça peut avoir sur le corps des personnes menstruées, c'était assez invisibilisé et personne ne s'est demandé si c'était grave ou pas. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un enjeu de santé publique sur ces protections-là et aussi sur la recherche autour des conséquences des protections, des pathologies liées aux règles. C'est encore quelque chose qui est très peu développé, malheureusement.
Merci Lucie et Éléonore pour cette discussion. On enchaîne avec le Flash Info de Léo.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Et ce soir, en Corée du Sud, le démocrate et chef de l'opposition de centre-gauche, Lee Jae-myung, remporte largement l'élection présidentielle. Selon un sondage de sortie des urnes, si c'est l'opposition qui a gagné, ce n'est pas anodin. La Corée du Sud sort de 6 mois de chaos politique et de rebondissements judiciaires, avec, je le rappelle, l'envoi de l'armée après la loi martiale prononcée par l'ancien président, puis sa destitution et le mandat d'arrêt contre lui. Ce scrutin était perçu comme un référendum sur le gouvernement sortant. Il va alors permettre à la Corée du Sud de retrouver une stabilité politique. À l'international, toujours des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire à Gaza font au moins 27 morts et des dizaines de blessés selon la défense civile de Gaza. Des milliers de civils affamés s'étaient rassemblés dans le sud de l'enclave pour une distribution d'aide. C'est le troisième incident du genre en à peine 3 jours, dénonce l'ONU qui parle aussi d'un crime de guerre. En France, maintenant, des nouvelles sur l'affaire de Naël, l'adolescent tué en 2023 à bout portant par un policier. L'auteur du tir sera jugé pour meurtre en 2026 devant la cour d'assises de Nanterre. C'est ce qu'a annoncé le procureur et le président du tribunal de la ville ce mardi. Le parquet considère en effet que le policier n'était pas en position de légitime défense, car pas menacé d'être écrasé par la voiture que conduisait Naël. Le parquet relève, je cite, que le policier n'a pas hésité à faire usage d'une arme dont il connaissait parfaitement la portée dangereuse, voire létale. À partir de demain, les sites pornographiques Pornhub, YouPorn et RedTube bloquent l'accès de leur site aux utilisateurs français uniquement. En réaction à la vérification de l'âge rendue obligatoire par le gouvernement français à partir de ce 6 juin. Halo, l'entreprise propriétaire de ces 3 sites, se dit pourtant très pro-vérification de l'âge, mais juge que la législation française est inutile et dangereuse pour la vie privée, selon les mots du propriétaire de l'entreprise. On est une radio locale, donc voilà quelques infos sur l'Île-de-France. Le trafic du RER B, C et D sera perturbé demain et jeudi suite à un mouvement social du 4 au 5 juin. La RATP invite à emprunter un trajet alternatif ou à limiter les déplacements dans la mesure du possible. Quant au train, le trafic SNCF sera à peu près dans la normale ce mercredi et jeudi, d'après la SNCF et le ministre des Transports. Enfin, la météo, ce soir on s'attend à un ciel plutôt dégagé en Île-de-France. Le soleil se couche à 21h47 précisément et se lève demain à 5h49. La journée de mercredi s'annonce bien couverte et on verra sûrement de la pluie dans la journée. Et ce sera à peu près la même chose sur toute la semaine d'après Météo France.
Merci Léo pour ce point météo et ces nouvelles du monde. On enchaîne avec la musique Enchourage de Assinine.
Ma mère, elle aurait voulu être avocate. Parfois, elle s'accroche à des rancunes comme si c'était des mains. Ma sœur, elle a presque failli être avocate. Je crois qu'elle a capté que les rêves c'est mieux quand c'est les siens. Moi j'aurais peut-être dû être avocate. Vu comment je défends mes choix de merde qui te foutent ma vie dans le train. La tête est sur la vitre quand j'écoutais à l'ammoniaque. Les poings serrés dans l'anorak. Viens s'il te plaît m'orage, viens on fait la chorale. J'entends le chant des ambulances sur le boulevard un peu comme la chorale. Premier soleil, il est juste caché par l'orage. Il est juste caché par l'orage, à ta foi comme un courage. Non c'est toi qui auras raison. Les étoiles au plafond me semblent être des années-lumière. Promesse dans le sable, je numère, j'attends que le cafard me rémunère. Je quitte les passants, les vieux qui hier. Ça va déjà un peu mieux qu'hier. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je demande l'eau froide par les choses. S'il te plaît, au début, comme pas mes fautes. Apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je demande l'eau froide par les choses. S'il te plaît, au début, comme pas mes fautes, apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Les promesses brisées, elles te brisent. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant, j'ai même pas des mots. Je suis pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées, elles te brisent. Moi j'ai promis la lune et le monde. Je suis pas sûr que ça cicatrise. Être perçu, c'est l'enfant. faire l'envers, c'est pire. Non, rétrécir, c'est dur. Et moi, je trouve presque ça beau, c'est dur. Je regarde la vie s'écrire, mon immeuble qui s'effrite. Tu manges le bois dans le fond des yeux, ça me brise le cœur quand tu récites. Le temps, il m'apprendra la leçon. Les années que ça prendra pas seront, je dirai merci, je dirai pardon. Je reste dans le mauvais train, puis le retour coûtera cher. J'ai tout gâché, ça fait mal comme quand le couteau trouve la chair. Mais je le promets, je vais me racheter. Y'aura beaucoup de zéros sur l'écran de l'ACM. Je réclerai de ton tout premier problème à l'énième. Un appart sur la corniche, un dans le 16e. On aura la vie qu'on mérite avant qu'il ne revienne. Les promesses brisées à tes prises. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant j'ai même pas des mots.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. On écoutait Enchaurage de Assinine.
La matinale de 19h.
Bonsoir Francesca.
Bonsoir Maya.
C'est l'heure de ta chronique.
Merci beaucoup. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Avant toute chose, rien ne peut justifier ce qui s'est passé ces dernières heures dans la capitale et dans le pays. Les affrontements violents sont inacceptables avec un bilan lourd. Vous l'avez bien compris, ce sont les mots du président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée dimanche dernier, au lendemain de la victoire de Paris Saint-Germain contre l'Inter. Bilan lourd, oui. Quand la victoire vire au chaos, oui. La fête a coûté cher. Voiture incendiée, abribus arrachés, vitrines défoncées, CRS et pompiers pris pour cible, des femmes insultées, on n'en parle pas, bousculées, des gestes déplacés, une ambiance de peur dans ce qu'aurait dû être une fête, lourde d'absurdité profonde de la situation. Ce n'était pas une émeute née d'un drame, ce n'était pas une explosion de colère sociale, ce n'était pas la rage d'une défaite, c'était censé être une fête. 563 interpellations, dont 491 à Paris, 307 gardes à vue, plus de 500 000 policiers et gendarmes étaient mobilisés. Un adolescent de 17 ans, mortellement poignardé. Un jeune homme de 23 ans, décédé après avoir été percuté par une voiture. Un policier gravement blessé et dans le coma. Une famille renversée. Un adolescent entre la vie et la mort. Et là, on ne peut s'empêcher de poser cette question simple pourtant. Pourquoi ? Pourquoi tant de violence alors qu'on avait gagné ? Ce n'est pas la première fois et c'est à chaque fois. Ce n'est pas une question d'origine. Il y avait aussi des visages de tout horizon. Tous ne sont pas de jeunes à problème. C'est le cas de Aurélien et trois autres personnes présentées en comparution immédiate hier. Tous insérés et sans casier judiciaire. C'est une question de cadre, d'éducation, de règles, de limites et peut-être même d'exemplarité collective. Et pendant que certains se défoulent, qui paye ? Alors je vais vous le dire, les policiers sur le terrain, les soignants aux urgences, les commerçants qui voient leur vitrine partir en éclats. Et nous tous finalement, notre argent, celui du contribuable, celui de la sécurité publique, des réparations, des indemnisations. Il y a aussi une violence dont on parle encore trop peu, celle que subissent les femmes dans ces moments-là, dans ces foules en fusion. Certaines se sont retrouvées agressées, désignées comme proie, isolées, touchées. Oui, en 2025, est-ce qu'on peut arrêter de faire comme si c'était normal, comme si la rue n'était pas aussi la leur, trop masculine, trop virile, trop brutale, trop foute ? Alors encore un voilà encore à quoi ressemble l'espace public en France certains soirs et encore un soir de match. Alors oui, il faut se poser la question, à quoi ressemblent nos célébrations ? Et surtout, qu'est-ce qu'on accepte ? Parce que si la victoire devient une excuse au saccage, alors ce n'est plus une victoire, c'est une défaite morale. Pour que la fête soit la fête de tous et pas la prise d'otage de quelques-uns. Et la perte pour tous, ce samedi, Paris a peut-être gagné, mais une partie de sa dignité, elle, c'est perdu dans les flammes.
Merci Francesca pour cet éclairage. On enchaîne tout de suite avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
L'artiste John nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Et bonsoir à Héloïse, ici pour nous parler avec Joy de sa mixtape Angel. Je prononce bien à, oui, à l'anglaise. Et qui est sortie tout fraîchement le 22 mai.
Oui,
je te laisse la place, Héloïse.
Ça marche, merci Baya. Bienvenue Joy. Donc, tu es une artiste pop originaire de Toulouse. Tu as sorti, comme disait Baya, le 22 mai, ton deuxième disque intitulé Angel, This Mixtape is for You. C'est une mixtape de 6 titres en anglais qui aborde des thèmes assez sombres comme le deuil ou les violences, mais qui ressort tout de même comme un disque lumineux et libérateur, on va en parler. Tu es inspirée par des artistes novatrices comme Björk ou encore FKA Twigs, et tu proposes une pop expérimentale qu'on pourrait aussi qualifier d'art pop ou d'hyper pop peut-être. Une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par la pochette du disque. Sur celle-ci, tu sors la tête de l'eau, littéralement. Et en écoutant le disque, j'ai eu l'impression que c'était un disque assez cathartique, qui va de l'obscurité vers la lumière, des souffrances vers la gratitude. Donc ma question est la suivante, est-ce que tu as eu la sensation de sortir la tête de l'eau en sortant cette mixtape ?
Oui, mais peut-être pas forcément en la sortant, mais en la faisant, ça a été tout le process. Ouais, l'idée de faire cette mixtape, c'était, je pense, le besoin de sortir ce que j'avais à sortir à ce moment-là. Je l'ai écrite 3 mois après avoir perdu ma mère. C'était le moment où je venais d'arriver sur Paris, donc ouais, j'avais bien besoin de sortir pas mal de choses. Et la pochette de la mixtape, elle est arrivée assez vite dans la DA globale. À partir du moment où j'avais même juste mes démos, on a commencé à réfléchir dessus et ouais, c'est exactement ça.
Quand tu dis on a commencé à réfléchir, à travailler dessus, c'est avec qui tu t'entoures de qui pour créer, réaliser cette mixtape ?
J'ai une très bonne pote qui s'appelle Lucie et qui est photographe du projet depuis le début, qui me suit vraiment depuis le début de la création de ce projet qui date de 2020 maintenant, fin 2020-2021. Et elle m'a aidée à toute la conception de la DA sur ce projet.
Ok, je rappelle du coup au passage que tu es une artiste indépendante, donc tu sors ce disque en indépendant. Concrètement, ça veut dire que tu portes ce projet sans être soutenue par un label. Tu parlais donc de ta photographe, mais globalement, être indépendante, ça demande de savoir bien s'entourer, d'autant plus, je pense, de producteurs, productrices, ingé son, réalisateurs, réalisatrices, photographes. Plus globalement, comment est-ce que tu t'es entourée pour réaliser ce disque et peut-être le précédent aussi d'ailleurs ?
Ouais, c'est une bonne question. Déjà, je suis vraiment 100% indépendante, donc j'ai pas de label, mais j'ai pas non plus d'éditeur, de tourneur, de booker, de manager. Je suis vraiment toute seule à le porter. J'ai un distributeur, mais et j'ai travaillé avec 2 RP sur ce projet, ce qui m'a beaucoup aidé, ce qui a aidé à la visibilité, ce qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment pas anodin. Et par contre, effectivement, je gère ce projet en 360 et je m'entoure d'équipes. Principalement artistique, du coup, c'est ce que tu disais. Je suis entourée sur quasiment tous les pôles et principalement, soit c'est des amis, soit c'est des gens qui deviennent des amis. Et pour les réels, là, j'ai voulu faire appel à des personnes que je ne connaissais pas mais dont j'admirais le travail et je les ai pas lâchées. Je voulais bosser avec elles et je les ai pas lâchées. Et ça l'a fait. Je pense notamment à Sacha Mongin que j'ai vraiment pas lâché et qui a réalisé le clip de Witch.
Oui, tout à fait, on va en reparler dans un instant. Donc je vais revenir au disque, à la mixtape. Ton premier EP, Thelma, il était inspiré par Les femmes qui courent avec les loups, qui est un ouvrage féministe de Clarissa Pinkola Estes, qui est une autrice et psychanalyste américaine d'origine mexicaine, il me semble. Oui. Donc tu disais tout à l'heure que cette mixtape, elle a été inspirée par un vécu personnel. Est-ce qu'il y a aussi une œuvre ou des œuvres qui t'ont inspiré pour ce disque-là ? Ou qui t'inspire en général ?
Oui, toutes. Mais c'est vrai que pour le coup, Thelma, c'était très clair parce que j'ai lu ce livre et ça a fait comme un électrochoc. En fait, je sais pas si tu l'as lu, mais juste même quelques chapitres, c'est vraiment une bible tellement étrange. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je faisais un cauchemar récurrent d'un homme qui venait clairement dans ma chambre pour m'agresser. C'était vraiment la finalité de ce rêve. Et en fait, c'était un peu des paniques. Enfin, comment ça s'appelle ? Les paralysies nocturnes. Et en fait, je ne savais pas trop comment l'exprimer, ce rêve-là. Enfin, comment l'analyser. Je ne le comprenais pas. Et je l'ai vu écrit dans ce livre. Et du coup, je me suis dit, mais c'est un truc de Barjou, en fait. Du coup, et même, c'était analysé. Donc, il y a eu vraiment tout un truc vraiment d'un électrochoc, en fait, de lire ce livre. Et j'ai pu vraiment l'associer à l'EP, comme Thelma et Louise, le livre, où vraiment le personnage de Thelma symbolisait pour moi l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Et c'est vrai que pour Angel, pour le coup, il n'y a pas. Je ne me suis pas vraiment inspirée de livres. C'est vraiment ma vie, là. Pour le coup, ça a été ma vie.
Alors, il y a une inspiration quand même qu'on trouve, c'est pas forcément une œuvre, mais c'est plutôt une figure, la figure de la sorcière. Mm-hmm. Le troisième morceau du disque s'appelle Witch, donc sorcière en français. Mm-hmm. Il y a un clip qui l'accompagne d'ailleurs, t'en parlais à l'instant, qui est très beau, qui a été réalisé par Sacha Mongin. La sorcière, c'est une figure féministe qui est revenue beaucoup sur le devant de la scène ces dernières années, notamment, mais pas que, avec l'essai de Mona Chollet, Sorcière, la puissance invaincue des femmes, qui est sorti en 2019. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette figure? Et éventuellement, est-ce qu'il y a des sorcières aujourd'hui qui t'inspirent?
Ben, c'est vrai que j'ai donné ce titre parce que l'idée de cette musique, c'était de se venger d'hommes qui m'avaient fait du mal et d'avoir un espèce de pouvoir qui pouvait transformer cette haine, entre guillemets, en... finalement une finalité où j'allais les hanter, en fait. C'est moi qui vais gagner dans cette histoire. Et c'était comment gagner, finalement. Et donc, du coup, dans cette figure-là de sorcière, il y avait cette idée-là que je pouvais finalement m'attribuer un petit peu tous les pouvoirs que je voulais. Et puis, dans le clip, ce qu'on a voulu incarner, c'est d'avoir une multitude de facettes de femmes, une multitude de personnages de femmes, et que finalement, il y a un truc un petit peu... qui pouvait les déstabiliser, en fait, qui était très déstabilisant. En tout cas, c'était ça qui était recherché. Et en termes de figure, du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai l'impression que toutes les femmes sont des sorcières, en fait. C'est ça que j'essaye de dire aussi dans Witch, et que du coup, j'ai l'impression que toutes les femmes qui m'entourent en sont. J'ai pas forcément de figure de sorcière qui m'inspire, mais ça pourrait être Lady Gaga comme Sacha Mongin.
Ok. Pour rester sur ce titre, Witch, c'est un morceau dans lequel tu rappes. Alors, je sais que tu aimes bien expérimenter et repousser les limites des genres. D'ailleurs, c'est quelque chose que tu fais là dans ces six morceaux. Mais il me semble que le rap, c'est quand même assez nouveau pour toi. Comment t'est venue cette idée, cette envie de rapper sur ce morceau-là en particulier? Est-ce que c'était un moyen de faire passer certains messages?
En fait, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Je m'entraînais toute seule chez moi. Enfin, c'est pas que je m'entraînais, c'est que je faisais des karaokés où je me faisais kiffer faire du rap, voilà. Et j'avais une démo qui traînait dans mon ordinateur. Et en fait, de toute façon, cette histoire que je raconte dans Witch, elle traîne depuis des années. C'est vraiment quelque chose qui me suit et qui me hante aussi, pour le coup. Et du coup, j'ai refait un peu le tour de mes démos à ce moment-là. Et je me suis dit, non, mais celle-là, il faut vraiment qu'elle sorte. Et il faut vraiment que le rap, je le pousse au bout. Et que, parce que quand moi, j'écoutais ma démo, elle était un peu dégueulasse. Moi, du rap enregistré chez moi, c'était pas fou. Mais j'étais curieuse de voir ce que ça donnait si on le poussait en studio, si c'était quelque chose qu'on poussait, qu'on allait au bout. Et finalement, je suis trop, trop fière de l'avoir sorti, ce rap-là. Et j'ai trop envie d'en refaire. Et finalement, maintenant, je me sens légitime au fait de le faire. C'est vrai qu'au début, quand on commence, on se dit, je suis pas rappeuse. Je vois pas pourquoi je prendrais cette casquette, mais en fait, si.
Ouais, pourquoi pas. C'est clair. Il y a une phrase que je crois que tu aimes bien, puisque c'est ta bio sur les plateformes d'écoute. C'est un peu un slogan féministe qui dit « Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Toi, si tu avais le choix, tu voudrais aller où ?»
Ah, mais où je veux.
C'est où tu veux.
Mais ça change tout le temps. Non, je sais pas. S'écouter tout le temps, en fait. D'être tout le temps dans le présent, donc ça, il n'y a pas forcément d'objectif, mais s'écouter, aller où on veut aller à chaque instant.
Ok, merci beaucoup Joy d'avoir été avec nous. Je rappelle que ton nouveau disque Angel, This Mixtape is for You est disponible sur toutes les plateformes. Tu seras au Rings à Toulouse le 27 juin, donc notez bien auditeurs et auditrices, ainsi qu'au Bel Air Festival le 5 juillet à Saint-Arail, près de Toulouse également.
Merci Héloïse et Joy, et on écoute un de tes morceaux, Power. No one satisfies me. I feel so empty. Only my bones remain. But my soul has deserted. Anxiety freezes me. Oh, why can't they rip me? And got nothing happy to say. And I swear to trying to live. I can hear what you say. She
C'était Power de Joy. On finit cette matinale avec la chronique.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Il manque presque rien cette matinale. Ah si, notre reco culturel, Fabien nous dégote pour nous les meilleurs plans pour Nuit Blanche.
Et oui, tout à fait. La Nuit Blanche à Paris, en région parisienne, ça se déroule ce samedi 7 juin 2025, donc à la fin de la semaine, ce samedi-là, avec une multitude d'événements gratuits répartis sur différents parcours. C'est la 24e édition, déjà, qui nous révèle de belles surprises. L'art s'installe partout dans la capitale pour une soirée culturelle, unique et gratuite, bien évidemment. Et voici donc une petite sélection. On commence avec X-Don Périgord, BPM. C'est dans une époque marquée par l'isolement où Danton Périgord transforme la fête en une expérience de conscience collective. Au cœur de cette célébration, un sound system ambulant inspiré des cultures populaires de Kingston, où Juliette Gelly imagine une œuvre lumineuse. De grands tableaux étincelants et tortueux deviennent tour à tour dessins de lumière, architecture clignotante et surface tournoyante. De loin, ces feux follets sur roues font signal. De près, ils rythment visuellement la danse. Toutes les heures, une pause suspend le trajet dansant et laisse place à des quarts d'heure américains. Une boule à facettes surgit, projetant ses éclats sur les façades alentours. Et si vous voulez y aller, ce sera au Canal Saint-Martin, quai de Valmy et quai de Jean Map. Donc ça bouge en fait sur Paris 10e. Une autre installation, c'est la lune dans la maison d'Adrien Lame. Elle est construite en bois léger et l'œuvre d'Adrien abrite en son cœur un disque recouvert de peinture fluorescente qui, sous une lumière UV, s'illumine et diffuse une aura énigmatique. Ses fenêtres jouent avec les échelles et les perceptions. Un travail subtil sur l'éclairage crée une atmosphère suspendue entre ciel et terre où la lumière semble flotter dans l'espace. À l'intérieur, le dehors se reflète. Nature, cosmos et architecture fusionnent, faisant pénétrer l'infiniment lointain dans l'espace intime du foyer. Cette maison, abritant l'apparition d'une lune pleine, s'installe au milieu des architectures modernes et fait place au spectaculaire. L'envie s'est située donc à l'environnement du square sur l'île Saint-Louis et ça favorise la méditation. C'est au Square Barry, Paris 4e. Ensuite, de 15h à minuit, la petite ceinture parisienne se transforme en terrain d'exploration artistique où le jeu vidéo devient médium d'expression et de réflexion collective. 5 artistes visuels internationaux présentent des œuvres interactives, une simulation en temps réel qui raconte la vie d'une communauté post-humaine, un jeu coopératif mêlant attachement, langage et annihilation cosmique. Il y a une sélection, bien entendu, de créations indépendantes. L'ambiance sonore oscille entre électronique futuriste et expérimentation pop sera orchestrée par 5 artistes emblématiques des scènes berlinoises, londoniennes et parisienne. Et si vous voulez y aller, c'est au Jardin des Traverses, au 33 boulevard Ney, Paris 18e. Et enfin, pour terminer, Orage, c'est une installation interactive suspendue dans les galeries des égouts où des impulsions lumineuses et sonores déclenchées par le mouvement des spectateurs révèlent l'invisible et illustrent l'impact humain sur les flux souterrains. Tumulus, solo de saxophone amplifié, transforme le son ancestral en une architecture sonore, électrique et inquiétante, mêlant sonorité brute et évolution lente. Ces œuvres se complètent pour créer une expérience sensorielle, poétique et immersive, accentuant l'atmosphère du lieu. Et ça se situe au Musée des égouts de Paris, Pont de l'Alma, Paris 7e. Et vous pouvez bien entendu trouver le programme sur Internet et également à la mairie de Paris pour passer une excellente nuit blanche.
Merci Fabien. Pensez bien à organiser votre nuit blanche parce que c'est souvent sportif et on n'a pas le temps de tout faire. Et en tout cas, ça a fait envie. On enchaîne pour finir en fait, cette matinale. C'est déjà l'heure de se quitter malheureusement. C'est passé tellement vite. Mais comme on dit, quand c'est passionnant, ça passe toujours trop vite. Bref, pour prolonger le plaisir, vous pouvez retrouver la matinale, demain à 19h sur le 93.9, même heure, même onde. Je remercie chaleureusement mes invités de ce soir, Lucie Larère de l'association des règles élémentaires, Joy, la chanteuse pop invincible. Merci également aux bénévoles, Éléonore, Héloïse, Fabien, Francesca, Léo, Simon à la réalisation, Maïwen et Alice à la coordination. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.